L'Éternel a jugé son peuple, et toute la génération qui a plus de 20 ans est condamnée à tourner en rond dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que tous meurent. Quand Dieu ordonne, il vaut mieux obéir ce que les Israélites ont refusé de faire. En conséquence, ils n'entreront pas dans le pays promis. Si Dieu me parle, j'ai moi aussi intérêt à écouter avant qu'il ne soit trop tard, avant que je me sois endurci et que j'ai atteint un point de non-retour. La Palestine, le pays promis, est une bonne illustration du royaume des cieux. Le piétinement dans le désert pendant presque 40 ans est lui aussi tout à fait assimilable autant que vous et moi passons sur terre. En effet, on brasse beaucoup d'air et puis je m'en irai en laissant quelques traces dans le sable que le vent recouvrira peu à peu. Et puis, éventuellement, mon souvenir aussi s'estompera. Après avoir tourné en rond dans le désert pendant tout ce temps, les Israélites auront l'opportunité de pénétrer en Palestine. À moi aussi, Dieu m'offre d'entrer dans son royaume. Je peux refuser, comme les Hébreux esclaves qui étaient sortis d'Égypte et qui sont tous morts, ou accepter, comme le fera la jeune génération. Cette vie est un carrefour et il y a deux chemins possibles. Voici en effet ce que Jésus dit dans l'Évangile. Entrez par la porte étroite. Large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Et il en est peu qui le trouvent. Fin de citation. Je continue maintenant le chapitre 14 du livre des Nombres. Les hommes que Moïse avait envoyés reconnaître le pays et qui, à leur retour, avaient entraîné toute l'assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays, ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent frappés d'une mort brutale devant l'Éternel. Quand Moïse rapporta ces paroles aux Israélites, le peuple se livra à de grandes lamentations. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et montèrent vers les hauteurs de la région montagneuse en disant « Nous avons péché, mais à présent, nous allons marcher vers le lieu dont l'Éternel a parlé. » Moïse leur déclara « Pourquoi passez-vous outre à ce qu'a dit l'Éternel ? Vous allez au-devant d'un échec. N'y allez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. N'allez donc pas vous faire battre par vos ennemis. » Car vous trouverez les Amalécites et les Cananéens sur votre chemin, et vous vous ferez massacrer. Comme vous vous êtes détournés de l'Éternel, il ne sera pas avec vous. Versets 36 à 43. Tout d'abord, les espions instigateurs de la révolte sont punis de mort sans plus tarder. Ensuite, les Israélites pleurent à nouveau, car la perspective de ces 39 années de pérégrination à tourner en rond dans le désert pour y mourir les épouvante. Ils croient pouvoir réparer leur désobéissance passée par un acte énergique qui forcera en quelque sorte la main de Dieu, alors obtenir la victoire. Loin de se repentir de leur désobéissance, ce sont les conséquences de leur acte qu'ils regrettent. Ils persistent et signe, voulant toujours suivre leur propre volonté. Ainsi donc, bien loin de réparer leur première faute, ils y ajoutent une nouvelle. Je finis ce chapitre. Dans leur présomption, ils montèrent quand même vers les hauteurs de la région montagneuse, mais ni le coffre de l'Alliance de l'Éternel, ni Moïse ne quittèrent le camp. Les Amalécites et les Cananéens qui demeuraient sur les montagnes descendirent, les battirent et les écrasèrent en les poursuivant jusqu'à Horma. Versets 44 à 45. Ils avaient manqué l'occasion d'obéir à l'Éternel. Maintenant, il était trop tard. Quand le train entre en gare, c'est le moment d'y monter et pas attendre qu'il ait démarré pour lui courir après. Pareillement, aujourd'hui que je vous parle, est un jour où Dieu fait grâce. La porte qui donne accès au royaume des cieux est grande ouverte. Demain, je sais pas. Et nous voici arrivés au chapitre 15 du livre des Nombres. C'est un peu comme le calme après la tempête, ou plutôt un lendemain de bataille, une fois que les canons se sont tus et que les brancardiers sont à pied d'œuvre, faisant leur triste besogne à ramasser les morts et les agonisants au milieu de décombres de toutes sortes. Quand ici-bas, je suis à un carrefour de la vie et qu'il me faut prendre une décision à conséquence, je passe toujours un moment difficile. Israël a eu à choisir. Les 10 espions rebelles étaient entièrement focalisés sur les obstacles de la conquête. Ils ont cédé à la panique et rejeté l'Éternel comme s'il n'était pas là au milieu d'eux, dans la nuée au-dessus du tabernacle. Ils l'ont traité comme une idole impotente et agi comme s'il ne leur avait jamais venu en aide. Le peuple les a suivis. Quelle outrecuidance de leur part! Caleb et Josué, au contraire, ont bien mesuré la grandeur des difficultés, mais ont aussi su savoir tout le potentiel de ce pays que l'Éternel avait promis de leur donner. S'appuyant sur lui, la source de leur force, ils voulaient foncer et conquérir le pays. La question que je me pose est donc celle-ci. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été un des espions? Du quel côté me serais-je placé? À partir de maintenant, Israël va entamer une longue errance boiteuse dans le désert. La traversée venait de tourner en errance, la marche en murmure, le témoignage en gémissement, la conquête en débâcle, les chants en soupir et leur objectif en palabre. Les textes sacrés disent très peu de choses sur ces années gâchées. À peine quelques détails isolés ici et là. C'est comme si le temps était suspendu. À la suite de la sentence de mort que l'Éternel avait prononcée sur cette génération et qui va s'exécuter lentement, le fil de l'histoire se rompt pour ne reprendre que presque 39 ans plus tard. Dans l'intervalle, se place un certain nombre de lois édictées en vue du temps où Israël sera établi en Canaan et qui sont comme un gage du maintien de l'Alliance. Et bien sûr, le récit d'une autre révolte nous est conté. Comme je l'ai déjà dit tout au début de cette étude, nous savons que durant cette errance, les Hébreux ne pratiquèrent pas la circoncision, pourtant la marque de l'Alliance. Ils ne célébrèrent pas non plus la Pâque. Et pire encore, ils devinrent idolâtres et offrirent des sacrifices non à l'Éternel, mais à leur faux Dieu. Un texte du Nouveau Testament relate cette effronterie. Je le cite. Dieu se détourna d'eux et les abandonna à l'idolâtrie et au culte des astres du ciel. C'est bien ce qui est écrit dans le livre des prophètes, ô peuple d'Israël. Quand vous avez offert des victimes et des sacrifices pendant les 40 ans de votre séjour au désert, était-ce à moi que vous les avez apportés? Non, vous avez porté la tente de Moloch et l'astre de votre dieu Ronfa, idole que vous avez fabriquée pour vous prosterner devant elle. » Fin de citation. Certains d'entre nous traversons cette vie comme les Israélites l'ont fait le désert, en piétinant sur place et en allant d'une difficulté à une épreuve. C'est d'ailleurs pour cela qu'à plusieurs reprises, des passages du Nouveau Testament utilisent les pérégrinations d'Israël à titre d'exemple pour les croyants ou ceux qui voudraient l'être. Alors que presque tous les chapitres du livre des Nombres ont un caractère franchement narratif, le 15e que nous allons aborder, par son style et contenu, est cérémoniel, ce qui le différencie des autres. Il est prophétique en ce qu'il projette le peuple dans le futur, lorsque celui-ci sera installé dans le pays promis. Il montre donc que si les Hébreux retardèrent leur entrée en Palestine, ils n'ont par contre aucunement anéanti le plan ou la promesse de Dieu. Le jour viendrait où Israël entrerait bel et bien dans le pays promis. Je commence à lire. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Parle aux Israélites et dis-leur. Lorsque vous serez arrivés dans le pays que je vais vous donner, pour que vous y fassiez votre demeure. » Verset 1-2. Les cinq ordonnances qui sont exposées dans ce chapitre n'ont pas vraiment de rapport entre elles. Ce sont des adjonctions aux lois antérieures avec quelques prescriptions nouvelles. Il n'y a fait aucune allusion aux longues années et à la situation dramatique des Israélites condamnés à mourir dans le désert. Ces nouvelles règles cultuelles ne portent du reste aucune date. Cependant, il semble bien que la perspective d'entrer en Palestine ne soit pas très éloignée. Nous sommes donc vers la fin de ces 40 années dans le désert. Trois des cinq ordonnances sont introduites par la formule « L'Éternel s'adressa à Moïse ». Je continue le texte. « Quand vous voudrez m'offrir un sacrifice de gros ou de petit bétail consumé par le feu, dont l'odeur apaisera l'Éternel, que ce soit un holocauste ou un sacrifice destiné à accomplir un vœu, un sacrifice volontaire ou encore un sacrifice offert à l'occasion de l'une de vos fêtes religieuses, vous y joindrez une offrande de 3 kg de fleurs de farine pétrie avec 2 litres d'huile et une libation de 2 litres de vin. Cette offrande de céréales et de liquides accompagneront chaque agneau offert en holocauste ou en sacrifice. Pour un bélier, vous ferez une offrande de 6 kg de fleurs de farine pétrie avec 2,5 litres d'huile d'olive. Versets 3 à 6. Tout ce passage sous-entend qu'une fois dans le pays promis, la nouvelle génération va adorer le vrai Dieu et l'honorer en respectant les ordonnances que leur a données Moïse et en lui offrant toutes les sortes de sacrifices prescrits par la loi. Ceux-ci ont non seulement un objectif immédiat qui permet la communion avec l'Éternel, mais aussi un but pédagogique en ce qu'il prépare l'humanité pour la venue du Christ qui offrira le sacrifice parfait en sa personne sur la croix. Lorsqu'elle accompagnait une immolation d'animal, l'offrande végétale devait être proportionnée à sa taille et donc au moyen de l'adorateur, ce qui est somme toute logique. Quand celle-ci était le complément d'un sacrifice, elle est toujours accompagnée d'une libation, c'est-à-dire d'un don sous forme de liquide. Ces deux offrandes de substances végétales, solides et liquides, ont le caractère très marqué du don de soi à l'Éternel, sans aucune notion d'expiation pour une faute commise. La farine, l'huile et le vin sont les aliments de base que l'Israélite apprête dans sa maison. Pour montrer sa reconnaissance, il en prélève une partie pour l'offrir au Dieu qui le comble de ses faveurs. L'huile est souvent un symbole pour l'Esprit Saint et le vin représente la joie. Je continue le texte un peu plus loin. Une même loi et une même ordonnance vous régiront, vous et l'étranger qui réside parmi vous. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, lorsque vous serez arrivés au pays vers lequel je vous conduis et que vous mangerez du pain du pays, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel. Quand vous cuirez votre pain, vous prélèverez la première miche que vous m'offrirez comme ce qu'on prélève sur la nouvelle récolte de blé. Vous ferez ainsi une offrande à l'Éternel des premiers produits de vos fournées de génération en génération. Versets 16 à 21. Les étrangers résidant au milieu des Hébreux étaient intégrés à la communauté d'Israël. Ils avaient les mêmes droits et devoirs envers Dieu. L'offrande pour l'Éternel revenait aux prêtres, comme d'ailleurs toutes les prémices, les premiers produits de toutes les récoltes. C'était pour eux un revenu très important. Encore maintenant, les Juifs observent strictement la règle de la première miche de pain. La mère de famille pétrit elle-même la pâte de la première fournée de l'année et prononce sur ce pain qu'elle retire du four la bénédiction suivante. Béni sois-tu, ô Seigneur, roi de l'univers, de ce que tu nous as sanctifiés par tes commandements et de ce que tu nous as ordonné de séparer la miche. Fin de citation. Je continue en résumant le texte du chapitre 15. Supposons que vous négligiez par inadvertance d'obéir à l'un de ces commandements que j'ai communiqué à Moïse. Si donc cette faute a été commise par inadvertance et qu'elle a échappé à la communauté, toute la communauté offrira un jeune taureau comme holocauste dont l'odeur apaisera l'Éternel, avec l'offrande et la libation prescrite, ainsi qu'un bouc en sacrifice pour le péché. Le prêtre fera le rite d'expiation pour toute la communauté des Israélites, et il leur sera pardonné, puisque c'est une faute commise par mégarde. Versets 22 jusqu'à 31. Dans ce passage, Moïse est adressé à la troisième personne, alors qu'ailleurs, c'est lui-même qui parle. Ce détail indique que cette ordonnance fut donnée postérieurement après sa mort et introduite dans le texte originel, par quelques personnages importants, peut-être le grand prêtre de l'époque. La situation décrite est l'un des cas les plus graves qui puissent se présenter dans la vie du peuple hébreu. Il est question à la fois d'une faute et de l'omission d'un acte exigé par la loi. C'est pourquoi il y a deux victimes, un taureau et un bouc. Tout cela ne nous concerne pas, me direz-vous. Il en ressort quand même un enseignement qui est important pour moi. C'est-à-dire que si je me rends coupable devant Dieu, même si je commets une faute sans le faire exprès, par ignorance, je me rends quand même coupable à son égard. En effet, c'est la justice absolue de l'Éternel qui est l'instrument de mesure et qui fonde la culpabilité de ma conduite, qu'elle soit par action ou par omission, en toute connaissance de cause ou par inconscience. Selon la fameuse maxime « Nul n'est censé ignorer la loi », l'ignorance en matière de responsabilité personnelle n'est pas une excuse. Je continue le texte. « Si quelqu'un commet délibérément une faute, qu'il soit autochtone ou immigré, il fait injure à l'Éternel et il sera retranché du milieu de son peuple. Pour avoir méprisé la parole de l'Éternel et violé son commandement, il doit être retranché car il porte la responsabilité de sa faute. » Versets 30 à 31, c'est sans doute le passage de la loi qui établit le plus nettement la différence entre les fautes qui pouvaient être couvertes par les sacrifices et ceux qui ne saurait l'être. Ces derniers tombent sous le châtiment du code pénal en plaçant le coupable hors de l'alliance que l'Éternel a contractée avec le peuple d'Israël. Le péché volontaire est un outrage, une insulte à Dieu. Toute révolte ouverte, appelée à main levée dans le texte hébreu, rompt l'alliance. La suite du texte donne un exemple qui illustre ce principe. Je lis. Pendant leur séjour au désert, les Israélites trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient surpris ainsi l'amenèrent devant Moïse, Aaron et toute la communauté. Ils le tinrent sous bonne garde car rien n'avait encore été prescrit quant à la peine qu'il fallait lui infliger. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme doit être puni de mort. Toute la communauté l'exécutera à coups de pierre à l'extérieur du camp. » Alors toute la communauté le fit sortir du camp et le lapida jusqu'à ce que mort s'ensuive, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Versets 32 à 36. La peine capitale pour avoir ramassé du bois un jour de sabbat. Ce châtiment est très sévère pour une faute qui, a priori, paraît bien petite. On comprend pourquoi il y a eu hésitation et consultation de l'Éternel. Un acte commis volontairement, consciemment, est considéré comme un rejet de l'autorité divine. Il ne peut pas être expié par des rites sacrificiels. Dieu enseigne ainsi à son peuple que le mépris de sa loi, même sous la forme en apparence la plus bénigne, ne saurait être toléré. Non seulement l'exécution était publique, mais c'est le peuple lui-même qui avait la responsabilité d'exécuter la sentence de sa propre main. C'était un acte pédagogique. Les Israélites apprenaient ainsi à craindre leur Dieu et à respecter la loi. Pour nous, pour moi, c'est difficile à comprendre parce qu'on a l'habitude d'entendre parler d'un Dieu d'amour, ce qui est tout à fait conforme à l'enseignement des Écritures. Pourtant, celles-ci mettent davantage l'accent sur la sainteté de Dieu et sur sa justice implacable que sur son amour, une constatation qui n'est pas très agréable, j'en conviens. Ces deux aspects qui semblent s'opposer dans ma perspective humaine limitée ont été réconciliés par le sacrifice du Christ. Sur la croix où Jésus a porté à ma place le châtiment du péché, la justice divine a éclaté en même temps que son amour pour moi a été manifesté. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.